La grande matinale, le MAG, c'est la deuxième partie de la grande matinale, une heure de culture et de société avec Charline Vanhoenacker tout à l'heure qui va chatouiller Georges Clooney avec Daphné Burki et sa nouvelle tête, une toute jeune actrice. Et à 9h20, vous retrouverez le débat du jour, une question en cette veille d'anniversaire de l'attentat contre Charlie Hebdo. Peut-on, doit-on faire un musée du terrorisme? Un grand juge et un grand historien en discuteront tout à l'heure. Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale, Sonia De Villers.
Constance Debray était avocate, bourgeoise, mariée, héritière du nom le plus important de la Ve République, puisque c'est son grand-père qui en a rédigé la Constitution. Elle a quitté la robe, rasé ses cheveux, exploré son homosexualité, et aujourd'hui, elle écrit. Ses textes sont saisissants. Ils nomment les choses ou les font advenir en raclant les mots et les virgules. Protocole, son nouveau livre, parle de ces règles dénuées d'affect qu'on applique en toutes circonstances. Le protocole, rien que le protocole. Ça vaut pour la peine de mort aux États-Unis, dont Constance Debray détaille les procédures et les ratés, la monstruosité pure. Mais la loi, rien que la loi. Ça vaut aussi pour les protocoles que Constance Debray s'applique à elle-même. Ça lui évite de penser, paraît-il. On n'y croit pas. La loi supprime-t-elle la folie, l'angoisse, le doute? La loi supprime-t-elle les questions? Bien sûr que non. Constance Debray et la loi, portrait numéro 68. Bonjour Constance Debray.
Bonjour.
Pourquoi l'Amérique? Pourquoi y partir? Pourquoi décider d'y rester? Pourquoi ne jamais la nommer?
Je pense que c'est difficile d'échapper à l'Amérique quand on est né à notre époque, pour mon cas, au XXe siècle. On est traversé d'Amérique par notre culture, par les livres, par les films, par la musique, par nos images, notre imaginaire, par la réalité de sa puissance. Donc il y a ces choses-là. Et puis, personnellement, j'ai une vieille histoire personnelle et professionnelle avec l'Amérique, je dirais, qui a commencé professionnellement quand j'étais avocat.
Vous étiez avocat?
Oui.
Vous n'étiez pas avocate?
Oh, j'étais les deux, j'étais ce que vous voulez.
Non, dans le livre, vous êtes écrivain, oui, et vous êtes avocat.
Je n'y attache pas plus d'importance que ça.
Et alors, pourquoi ne pas nommer l'Amérique? Puisque
pourquoi
vous
nommer
savez
l'Amérique
parfaitement quand il faut nommer ou ne pas nommer.
Oui, c'est évidemment un dessein, je vous remercie de l'avoir relevé, parce que nommer les choses écrase ou peut parfois orienter le sens. Et si j'avais dans ce livre nommé l'Amérique, qu'en effet je ne cache pas pour autant, on aurait peut-être trop vu l'Amérique. Or, si je l'utilise, si j'en parle, c'est parce que c'est aussi parce qu'elle parle d'autre chose, enfin que ce dont je parle, la matière que j'utilise dans ce livre, à propos de la peine de mort et des méthodes d'exécution, me paraît parler aussi de
quelque
nous
chose
tous.
D'universel,
de nous tous,
qui engage toute l'humanité, c'est ce qu'on va comprendre. C'est ce qu'on va comprendre en parcourant les pages de ce livre. Comment ça a commencé? Comment vous avez commencé à lire des protocoles d'exécution, Constance Debray? Puisqu'après, vous n'avez fait plus que ça pendant 2 ans.
Ah bah ça, comme tout le monde, quand on rêvasse et on traîne sur Internet et puis on lit les journaux et puis oui tiens je suis là-bas parce que j'y passe du temps et je lis un article sur un condamné à mort qui va être exécuté et puis de fil en aiguille je traîne sur le site du département ou du ministère de la Justice du Texas. Et puis tout d'un coup, je vois des choses un peu plus précises, et puis je tombe dans quelque chose qui me paraît absolument passionnant, je dirais, de la pure pornographie du réel, et là, ça m'intéresse.
Vous avez vu de vos yeux vus ou vous n'avez pas vu de vos yeux vus?
Non, je n'ai pas vu de mes yeux vus.
Pourquoi?
Alors, d'abord, est-ce que je l'aurais fait, je ne sais pas, mais je me suis bien sûr posé la question, mais c'est très difficile. Les exécutions publiques Place de Grève et compagnie n'existent plus depuis longtemps dans les pays occidentaux. Elles ont disparu aux États-Unis aussi.
Il y a pourtant des témoins.
Oui, bien sûr, la justice ne peut pas être totalement... On est dans les contradictions. Elle est publique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelques témoins et quelques journalistes, mais elle est quand même cachée, elle est à l'intérieur des prisons et elles sont d'accès difficile.
L'année dernière, l'Alabama exécute Kenneth Eugene Smith par inhalation d'azote, technique encore jamais utilisée aux États-Unis. Le condamné a mis 29 minutes à mourir.
Smith a retenu sa respiration aussi longtemps qu'il le pouvait. Nous pouvons aussi donner ces informations. Il a un peu lutté avec ses sangles. Il y a eu des mouvements involontaires et des respirations d'agonie. Tout cela était attendu, comme nous l'avions vu dans nos recherches sur l'hypoxie à l'azote. Donc, rien n'était hors de l'ordinaire.
Mais le révérend Jeff Hood, soutien spirituel du condamné, dénonce une lente agonie.
Je pense que tous ceux qui ont été témoins de cela savent que nous n'avons pas vu quelqu'un perdre connaissance en 2 ou 3 secondes. Nous n'avons pas vu quelqu'un perdre connaissance pendant 30 secondes. Ce que nous avons vu, ce sont des minutes entières pendant lesquelles quelqu'un luttait pour sa vie.
Dans Protocole, Constance Debré, il y a la pendaison, il y a le peloton d'exécution, il y a la chaise électrique, il y a la chambre à gaz, il y a l'injection létale. Il y a aussi l'heure ratée. Et ça donne des pages écrites au rasoir, quasiment insoutenables, pourtant très distancées. Mais quand je disais une monstruosité pure, la barbarie, quel mot vous choisiriez ?
Je ne qualifie pas. C'est du réel, c'est tout, c'est la réalité. Je pense que la littérature est aussi là pour nous montrer ce qu'on veut pas voir, ce qu'on veut pas voir de nous-mêmes, ce qu'on veut pas voir du réel. Voilà. Donc non, il ne s'agissait pas de commenter. Mais oui, bien sûr, c'est très difficile de tuer un homme, en fait.
En fait. Le premier homme exécuté par électrocution prend feu. Des témoins s'évanouissent. La chaise électrique. Les hommes ne meurent pas de mort cérébrale lors de la première décharge, mais de cuisson des organes au cours de la deuxième ou de la troisième. Les tissus de la chair gonflent. L'homme défèque. De la vapeur ou de la fumée sort de son corps. Les yeux sortent de leurs trous, tombent et pendent sur les joues.
Oui, il y a une des réflexions, un des grands débats sur la peine de mort aux États-Unis, mais qui a été le nôtre au moment de la Révolution. Si vous ouvrez les débats de la Constituante, on a les mêmes. Comment bien tuer ? Comment tuer gentiment, presque ? Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a un amendement de la Constitution qui interdit les peines cruelles. Et donc toutes les méthodes d'exécution ont été validées par rapport à ce principe. On croit au progrès, donc au moment où apparaissent le gaz, l'électricité, on se dit tiens, ça va être formidable, ça va être propre.
La question du bien et du mal ne se pose pas, écrivez-vous. Ce n'est au fond la décision de personne, c'est un enchevêtrement de règles, de causes, de faits. Sans virgule entre deux règles, de causes, de faits. Une somme de décisions prises par d'autres.
Bien sûr. Oui, je crois que c'est la situation. Oui, je pense qu'on se pose plus les questions, en fait, très souvent. En tout cas, moi, je voulais simplement poser des choses qui parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on a tout un système, toute une société, tout un système qui tend au bien. Je crois que le droit est une tentative de l'humanité, des sociétés, de s'arracher au mal. Alors. Et que le droit est toujours rattrapé, parce qu'on n'échappe pas, à cette guerre du bien et du mal, et que la loi elle-même est rattrapée par ce combat. Et je voulais juste, en posant ces choses, en posant les protocoles eux-mêmes, en posant la réalité de ce qu'ils font au corps des condamnés, qui est toujours atroce. C'est pas uniquement les exécutions qui se passent mal. D'ailleurs, un tiers des exécutions se passent mal. Quant à celles qui se passent bien, je ne sais pas si elles se passent bien. Voilà. je voulais montrer le, voilà, simplement
ce
le,
qui est très très étonnant,
notre incapacité à s'arracher au mal.
Il y a notre incapacité à s'arracher au mal, et il y a quelque chose de très fondamental que questionne votre livre. Il y a notre rapport à la loi, notre rapport à l'ordre, notre rapport à la règle. Vous êtes une femme de protocole, Constance Debré. Vous, vous appliquez des protocoles, d'une certaine manière.
Mais on le fait tous. Je pense qu'on est tous traversés par un grand désir de règles. Voilà. Parce qu'on n'y comprend rien à nous-mêmes, à ce qui se passe, au monde, à la question de savoir comment vivre, comment dérouler notre journée ou nos existences.
Vous nagez tous les jours.
Oui.
Oui. Une piscine. Toujours la même distance.
Oui. Bon.
2,5 km. Pourquoi vous? Pourquoi?
Parce que
strictement le même nombre de longueurs.
Parce que je pense que j'aime penser l'existence comme quelque chose qui doit être un peu construit en termes de. Je pense qu'on a tous aussi qu'une des définitions, une des incarnations de la règle, c'est l'esthétique de soi, pour reprendre. Une expression employée par Foucault, il me semble.
Mais c'est ça qui fait de vous quelqu'un d'extraordinairement complexe et probablement contradictoire. C'est-à-dire que on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a une grande part de liberté et de transgression en vous.
Mais il n'y a aucune transgression. Non, je ne crois pas.
Non.
Certainement pas. Non,
certainement pas.
De liberté, alors là, oui. Qui est libre je ne sais pas. Je ne sais même pas si c'est une aspiration. La question, c'est d'essayer non, je crois que je suis au contraire extrêmement protocolaire. Mais j'ai le goût de
l'ordre. Sinon, vous n'auriez pas été juriste.
J'ai le goût de la loi. Voilà. J'ai le goût de la loi. Mais j'aime bien édicter mes propres lois. Mais ce sont pas des lois pour le plaisir, pour l'anarchie, non, c'est de définir des lois qui sont justes.
Vous avez écrit 5 livres.
J'ai un fantasme
où vous avez un fantasme de loi où vous racontez comment, non pas vous construisez, mais comment vous déconstruisez.
Je déconstruis.
Qui vous étiez, ce nom, cet héritage des Debré, ce mariage bourgeois, cette profession d'avocate, même vos cheveux, vous les avez rasés, même cette sexualité, vous l'avez explorée, vous l'avez déconstruite, vous l'avez reconstruite.
Je suis tout à fait l'héritière de ma famille, voilà, c'est en réalité, puisque je ne fais que construire, j'essaie de construire des choses, donc je crée mes propres constitutions, en fait,
vous créez vos propres constitutions,
oui, bien sûr,
comme Michel Debré, votre grand-père.
Je pense pas que la loi et la littérature soient très éloignées. Je pense qu'il y a dans cette passion du langage un désir d'ordre, bien sûr, et un désir de juste aussi,
Et puisqu'on parle de votre grand-père, il a voté contre l'abolition de la peine de mort.
Oui,
j'ai regardé. Il était l'adversaire politique de Badinter.
Oui, oui. Oui, ça m'étonne pas. Voilà. Bon, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus.
Vous étiez petite, vous vous en souvenez?
De l'abolition de la peine de mort?
Ouais.
Où je me souviens, oui.
Des discussions à la maison?
Non, je n'ai pas discuté avec mon grand-père de la peine de mort, je ne pense pas.
Mais vous aviez 10 ans.
Oui, il était un peu raide, disons, sur certains sujets. Et moins sur d'autres, sans doute. Mais oui, mais on sait. En tout cas, je me souviens quand je lui ai dit que je voulais être avocat, il me disait non, tu devrais être juge.
Ah tiens.
Ouais, bien sûr.
Ah tiens. Est-ce que ce rapport à la loi, vous qui aimez la loi, l'ordre et qui vous construisez, vous êtes, et vous l'avez raconté aussi, la fille d'un Debré qui a été à la limite de la loi et qui parfois a fait des choses illégales, votre père François Debré.
Oui, mais non, mais c'est super d'avoir de tout avoir dans sa poche.
Ça, c'est
non,
vous,
mon père
vous
m'a beaucoup appris. Oui, non.
Votre père était grand reporter, immense journaliste. Ça, c'est tous vos amis qui vous appellent
oui,
en même temps qu'ils vous entendent parler à la radio.
Mon téléphone ne sonne jamais.
Bah, c'est pas grave. Voilà. C'est le réel qui se rappelle à vous au milieu de cette émission de radio.
Votre père était grand reporter, c'était un grand journaliste.
Ouais. C'était un grand lecteur, non ? C'était quelqu'un de... Oui, bah voilà, il s'est beaucoup drogué. C'est très intéressant, et ma mère aussi, d'ailleurs, les deux ensemble, tant qu'à faire. Non, c'est intéressant, je ne leur en ai jamais voulu de montrer, d'être tout à fait honnête et sincère et vrai dans leur dans la difficulté à vivre, en fait. Voilà, c'est compliqué, la vie, et on peut choisir le plaisir de la drogue sans...
Donc on ne peut pas toujours vivre conformément avec la loi.
Ah bah c'est une autre loi. Je pense que la loi du désir, du manque des drogués est une vraie loi, une vraie loi. Qui fait une vraie communauté aussi. Quelque chose, ouais, que je comprends très bien. Et puis, oui, ça c'est sûr que ça m'a appris à voir autrement le monde des conventions. Eux n'étaient pas comme ça, c'est sûr.
Je reviens à Protocole. Il y a quelque chose de très troublant. Il y a l'alternance entre le protocole de la mise à mort, les protocoles d'exécution, et puis des scènes qui relèvent de l'intime. De la drague, du sexe, de la rencontre, de la confrontation avec ces Américains que vous ne nommez jamais, ce peuple qui porte des lunettes de soleil à l'intérieur, ce que vous allez finir par faire, vous aussi. Qu'est-ce que le sexe, la drague et les corps font là ? Ils sont là comme une pulsion de vie dans un livre sur la mort ?
Pour moi, c'est pas tellement ça. Je pense que le jeu qui se promène dans ce livre est pas
le jeu J.E.
Le jeu J.E., la première personne, le narrateur ou la narratrice, est très éloigné de moi. C'est quelqu'un d'assez opaque. Et les personnages, les figures, je dirais plutôt, que rencontre le narrateur, sont simplement d'autres...
J'ai pas dit que c'était vous, Constance Debré.
Non, mais bien sûr que c'est à partir de moi. Mais je veux dire, c'est pas du tout... Je pense pas du tout que...
Moi, ma question, c'est qu'est-ce que le corps et le cul viennent faire dans un livre où on parle de la mort ?
Il y a à peine du cul.
Un peu de désir, un peu de drague, un peu de rencontre. Un peu de pulsion de vie.
Non, c'est pas ça. Pour moi, c'est montrer des d'autres personnages, si vous voulez, qui sont confrontés dans notre société, comme on est tous, voilà. Je crois, dans notre société libérale, dans le positiviste, matérialiste, contemporaine, à l'absence de sens, voilà. Et de montrer comme cette absence de sens, comme peut-être ce positivisme et ce matérialisme, et le matérialisme s'incarne aussi par... je voulais quelque chose de très matériel, donc quand je parle de la peine de mort, je ne vais pas parler de principe, je vais montrer comment ça se passe dans le corps. Et que le positivisme, le matérialisme, tout ce progrès que nous avons dû, la société, en gros, bourgeoise depuis le XIXe siècle, ne nous suffit pas, et qu'on est dans une sorte, il me semble, il y avait quelque chose, moi, que j'ai ressenti, que je ressens là-bas, mais que je peux ressentir partout, comme les premiers cercles de l'enfer de Dante, quand on lit la Divine Comédie, et Virgile et Dante se promènent et on voit des êtres un peu malheureux, un peu perdus, un peu qui savent pas très bien quoi. Je crois qu'on est un peu tous plongés dans cet état-là où on peut l'être. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut voir le monde. Et je crois que c'est peut-être l'impensé de cette société qui nous a dit qu'on allait être parfaitement heureux quand on aurait tous les biens matériels.
D'ailleurs, je lis votre quatrième de couverture. D'habitude, c'est une tartine, la quatrième de couverture. Vous, c'est cinq mots. Ici, on achète les âmes. Moi, je vous conseille d'acheter Protocole. Ça paraît chez Flammarion. Vous ouvrez ce texte, vous ne pouvez plus le refermer. Merci beaucoup, Constance Debré.
Merci à vous.
On va écouter Bashung. Joli, non ? Comme lapsus. On va écouter Bashung. Il est comme vous, la nuit il ment.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho.
C'est Bashung.
Non, c'est Bashing, vous avez dit.
Oui, c'est joli comme petit lapsus, ça va rester. C'était Bashung, donc, et c'était La nuit, je mens. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. À 9h45, Charline Van Honecker.
Bonjour, donc. La France Inter. Et Georges Clooney est français. Non, ah, il a été naturalisé le 27 décembre. Mais il ne parle pas français, mais comment il a fait ? Alors, il s'est installé à Brignoles. Mais rien ne va dans cette phrase. Rien ne va. Je ne sais pas comment on va faire.
Daphné Burki.
Et bonjour tout le monde. Ma nouvelle tête, dans quelques instants, elle s'appelle Shirelle Nataf. Elle a été découverte dans un casting sauvage à 11 ans. Et demain, elle sera découverte par la France entière avec le film Ma Frère qui sort.
Okay. Alors, il est 9h31 sur France Inter. Et à 9h31, c'est l'heure du débat du jour. La France va se doter d'un musée mémorial du terrorisme. Le projet a failli être abandonné. Il verra finalement le jour, l'année 2025, qui se referme, a marqué les 10 ans des attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre. Pourtant, la mémoire est toujours vive.
J'entendais les cris des blessés. Il y avait des personnes qui criaient haut et fort pour demander de l'aide, mais... Avec le temps, ces cris commençaient à diminuer. Ça m'a fait comme un choc émotionnel où j'arrivais pas à accepter cette situation, sachant que j'étais entouré des cadavres et je me suis dit peut-être que je suis le seul qui a survécu.
La question se pose donc, n'est-il pas trop tôt pour mettre en musée un traumatisme encore intact ? Et ce, alors que la menace terroriste pèse encore sur la France. En outre, est-on tous d'accord sur la définition du terrorisme ? Bien sûr que non. L'histoire et le présent montrent que c'est un sujet de fracture.
France Inter, la grande matinale Sonia De Villers.
Alors, pour en discuter, un historien et un juge. Henri Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un historien de grande renommée, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, président de la mission de préfiguration de ce musée mémorial du terrorisme. Vous allez nous expliquer ce terme, musée mémorial. Marc Trévidic, bonjour.
Bonjour.
Président de cour d'assises, écrivain, juge d'instruction pendant près de 10 ans au pôle antiterrorisme au tribunal de Paris de 2006 à 2015 et auteur chez Albin Michel de Justice présumée coupable. Henri Rousseau, demain, 7 janvier, évidemment, on commémorera l'attentat perpétré contre la rédaction de Charlie Hebdo. Pourquoi ce futur lieu doit-il être, selon vous, à la fois un mémorial et un musée ?
Ben, pour deux raisons. Il y a une politique de reconnaissance envers les victimes. C'est une tradition qui n'est pas simplement française. On l'a fait pour de grands événements, pour les deux guerres mondiales. Mais dès lors qu'il y a une reconnaissance envers les victimes du terrorisme, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on connaît le terrorisme ? Est-ce qu'on comprend ? Est-ce qu'on sait ce que c'est ? Et la réponse qui était quasi immédiate, pas vraiment, pas tout à fait. Et donc le mémorial, la reconnaissance, s'accompagne d'un lieu qui va produire de la connaissance et qui va sensibiliser à ce qu'est le terrorisme. Je l'ai dit assez souvent, ça ne sert à rien de commémorer un événement si on ne le connaît pas ou si on ne le comprend pas.
Alors, pour le connaître, pour le comprendre, vous donnez à le voir. Par exemple, vous constituez des collections à partir de dons et de scellés d'affaires judiciaires qui sont closes et dont vous devenez les gardiens, hein, c'est un terme judiciaire consacré. Vous avez par exemple la table et la chaise du restaurant La Belle Époque qui garde des impacts de balles du 13 novembre. Vous avez le matériel d'enregistrement de Guylaine Dupont et Claude Verlon, nos confrères et techniciens, journalistes et techniciens de RFI tués au Mali par un commando d'Al-Qaïda. Pourquoi ce choix de représentation à travers des objets ?
Oh ben ça, c'est pour une raison simple. Un musée, c'est un lieu qu'on visite et qui fait appel au sens. Il fait pas simplement appel à l'intelligence. Un musée, c'est pas un livre. Le livre est important, les livres sont importants. Un musée, c'est une expérience sensorielle. C'est presque une évidence avec les yeux, avec le regard, avec l'ouïe, parfois même avec le toucher. Et donc, la base de tout musée, ce sont les objets. Et ça, c'est la première objection qui nous a été faite, parce que nous ne voulions pas faire ce qu'on appelle un centre d'interprétation. Pour aller vite, un centre d'interprétation, c'est un lieu où vous avez des écrans et on vous raconte à l'image. C'est très bien. Mais nous, on voulait quelque chose de plus. On voulait sensibiliser à ce qu'est la violence terroriste, qui est une violence d'une nature assez particulière. Et donc, on a cherché, au début, on a cherché quelles seraient les ressources possibles, et on est tombé, bon, je veux dire, un peu par hasard, hein, sur les ressources extraordinaires que constituent les scellés judiciaires.
Alors, justement, vous avez en face de vous un juge. Ouais. Certains de ces scellés, certaines de ces pièces, vous les avez eues entre les mains, Marc Trévidic, probablement.
Hein, on parlait de vos collègues de RFI, j'ai instruit le dossier. Voilà. On peut parler aussi de dossiers qui sont dans l'histoire tout en étant actuels, judiciairement. Copernic, rue des Rosiers.
Voilà, en fait, la rue des Rosiers.
Tout le problème d'ailleurs du musée du terrorisme, c'est que, évidemment, ce sont des événements dans l'histoire. On va parler du terrorisme des années 80, je suppose qu'il y aura, pas mal d'éléments sur ça. Et puis d'un autre côté, bah, judiciairement, la page n'est pas refermée. Donc c'est quand même un livre qui a vocation à se compléter au fil du temps, comme tous les livres d'histoire, quelque part. Donc je dis que c'est une très belle idée, mais c'est très complexe, très compliqué.
C'est-à-dire que pour vous, c'est intéressant. Nous, journalistes, on est habitués à opposer le temps des médias qui va trop vite par rapport au temps de la justice qui est beaucoup plus lent. Mais là, vous dites, il y a le temps de la justice et il y a le temps de l'histoire. Et pour vous, ce sont deux temporalités qui ne sont pas les mêmes.
Oui, un historien va très bien pouvoir parler des mouvements terroristes des années 80, par exemple. Là où un juge d'instruction va dire, hop là, je suis encore en train d'instruire les dossiers.
Oui.
C'est très paradoxal et pourtant c'est vrai, c'est de l'histoire. C'est l'histoire parce que c'est l'histoire révolue. Ça a été une période d'histoire de terrorisme un peu sponsorisé par les soviétiques, d'obédience marxiste-léniniste. Ça a disparu. Mais les dossiers, retrouver les coupables, ça n'a pas disparu, mais ça a été vrai aussi. Pour ce qui est du génocide, enfin du principal génocide que l'histoire a connu, où on a été chercher des barbiers.
Donc, par exemple, typiquement, là, vous disiez la rue des Rosiers, l'attentat de la rue des Rosiers qui a eu lieu en 1982 en plein cœur de Paris.
Sans doute cette année.
Il sera jugé cette année. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Henri Rousseau ? On peut muséifier des dossiers qui ne sont pas clos, des affaires qui ne seront peut-être jamais closes parce que peut-être on n'aura jamais de réponse ?
Oui et non. C'est-à-dire, bon, je prends un exemple simple, les scellés judiciaires, on ne les a pas à n'importe quelle condition. On les a à la condition qui paraît presque évidente, que les affaires soient closes. Si voilà.
Maintenant, alors, donc, je vous interromps juste un instant. Marc Trévidic, ça vous pose un problème que ces objets que vous avez eus entre les mains en tant que juge risquent d'être fétichisés ou comment dire, vous avez peur d'une forme de sensationnalisme quand on les montre?
Alors ça, c'est toute la difficulté de ce genre de musée, mais je pense qu'il faudra beaucoup de tact, il faudra se rapprocher des victimes, évidemment. Il faut montrer la violence. Il faut la montrer, d'une manière générale, sinon on ne parle pas de terrorisme. Mais donc, il faut la montrer. Alors, l'image, c'est encore pire, peut-être, aussi, hein, parce qu'on pourrait passer des images en boucle d'atrocités terroristes. Hein, ouais. Et pas forcément des images un peu surréalistes, comme les tours jumelles, vous voyez, des images encore plus crues et plus difficiles. Une chaise percée qui va montrer ce que c'est qu'une Kalachnikov, finalement, ce que ça peut faire. Sur une épaisseur de bois comme ça, ça peut être très parlant comme objet, voilà, sans que ça soit nécessairement sensationnel, morbide. Donc, tout de l'art va être là, en fait. Et c'est pour ça que c'est compliqué.
La difficulté. Je vous ai interrompu, Henri Rousseau. Vous obtenez les scellés à condition que les affaires soient closes. Mais le terrorisme, c'est une affaire qui, en soi, n'est pas close.
Bien sûr.
La Shoah, c'est fini. Le terrorisme, c'est pas fini.
Un exemple historique presque révolu. L'un des plus grands musées de la guerre au monde, qui est l'Imperial War Museum de Londres, qui est l'un des grands musées de la guerre, enfin en tous les cas en Europe, a été conçu en 1917. C'est-à-dire un an avant la fin de la Première Guerre mondiale. Le principe d'un musée, là je parlais de connaissances, il n'y a pas que ça, et c'est un musée mémorial en plus, il y a l'idée de conserver des traces. Je prends juste un exemple sur les scellés. Moi, comme historien qui a l'habitude de travailler sur des archives, je découvre, je le savais sans le savoir, que la plupart des objets que nous avons pu récupérer étaient voués à la destruction. Or, quand on a commencé à regarder avec un regard, on va dire historique et muséographique, ces objets, non pas un regard sensationnaliste, on dit, mais c'est complètement aberrant. Par exemple, il y a un certain nombre d'objets qui ont servi aux instructions. Ben, c'était les vôtres, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on va en faire? On ne va pas les montrer pour dire, oh là là, regardez, c'est extraordinaire. Non, on va les montrer comment se déroulait une enquête. Je prends un exemple sur les attentats du RER Saint-Michel en 1995. On a une carte du métro qui a été réalisée par Jean-François Ricard, qui était à l'époque... celui qui avait commandé d'une certaine manière cette carte pour expliquer et pour simplifier. Bon, ces objets nous permettent de voir comment, il y a 20 ou 30 ans, vous êtes dans le musée, pardonnez-moi, mais comment on menait une enquête. Les enquêtes ont changé, les méthodes ont changé, les méthodes des terroristes ont changé. Tout ça, c'est de l'histoire. Je vais prendre le problème à l'envers, parce que je fais de l'histoire contemporaine depuis le début de ma carrière, ça fait un certain temps déjà, et on m'a toujours posé la question, comment est-ce qu'on veut faire de l'histoire sans avoir le recul? Oui, bien sûr. Imaginez l'inverse. Puisque on ne peut rien faire, on ne pourrait pas faire d'histoire sans recul, on va attendre combien de temps pour pouvoir parler de ces choses-là? Ça n'a pas de sens. Surtout dans une société comme la nôtre qui est avide et qui vit dans l'instant et qui est avide de sens, entre guillemets. Donc, c'est une difficulté, bien sûr, mais c'est une difficulté qui est tout à fait surmontable.
Marc Trévidic, cette question d'un musée mémorial du terrorisme pose un autre problème très épineux, celui de la définition du terrorisme. Et vous, comme juge, qui est terroriste, qui ne l'est pas, et en fonction de quels critères vous avez été confronté à cette complexité-là qui change d'une époque à l'autre?
Tout à fait, j'y ai réfléchi dans des livres aussi, c'est une sorte de musée aussi. Tout simplement pourquoi? Parce que le terrorisme est politique. Il est politique, c'est une violence politique. À partir de là, la politique est partout. Et la politique, ça peut être de désigner à un moment une personne ou un groupe comme terroriste, puis après de dire non, ce sont nos copains, ce ne sont pas des terroristes. Je rappelle toujours cette histoire de Moudjahidine reçue à la Maison-Blanche par Reagan, qui les appelait les combattants de la liberté. Ça laisse songeur par rapport à ce qui s'est passé après, mais ce n'est qu'un seul exemple. On pourrait parler de Kadhafi qui plante ses tentes en France, à Paris.
De Yasser Arafat,
prix Nobel de la paix.
Prix Nobel de la paix, qualifié de...
terroriste avant. Et en Afrique du Sud aussi, la qualification terroriste a été donnée à des grandes figures qui ont lutté contre l'apartheid. Donc, si vous voulez, c'est une définition très complexe. Et quand un musée doit d'abord s'adresser aux jeunes, aux étudiants, c'est un lieu de connaissance, il faut qu'ils sortent de ce musée en comprenant un peu mieux la relativité de la notion même de terrorisme, qui est d'abord une méthode, mais je crois qu'on est d'accord, une méthode de violence, et qu'il faut parfois séparer de la cause, et de la légitimité de la cause elle-même.
Henri Rousseau, comment on fait face à la relativité de la qualification terroriste? Comment on fait?
Toute notion politique et singulièrement de violence politique est relative. Ce que vous dites du terrorisme, bon, c'est particulièrement vrai, mais c'est vrai du fascisme, c'est vrai du totalitarisme, ce sont des mots qui sont systématiquement instrumentalisés. Bon. En France, parce que nous, on ne couvre pas uniquement la France, mais la France occupe une grande part. D'abord, une définition juridique, c'est pas à vous que je vais le dire, donc déjà, la rappeler, l'expliquer. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer quels sont les éléments de définition du terrorisme, éléments qui peuvent être discutés, contestés. Notre propos n'est pas de donner une définition qui serait celle, voilà, c'est le musée qui vous dit ce qu'est le terrorisme, point barre, il n'y a rien à réfléchir. Au contraire, nous essayons d'ouvrir la réflexion. Nous donnons, alors c'est un problème auquel on s'attaque d'entrée de jeu dans l'exposition permanente, on va donner un certain nombre de critères qui vont au-delà de la définition juridique qui a une autre fonction. Enfin, on va s'inspirer d'un certain nombre de cas, on va faire ce qu'on appelle un idéal type pour employer un mot savant, on va prendre plusieurs exemples pour dire quels sont les éléments qui permettent de définir le terrorisme. Et ensuite, le visiteur aura, tout au long de l'exposition, la possibilité de comprendre oui, non, c'est du terrorisme, c'est pas... Au fond, il pourra juger tout seul.
Ça veut dire quand même ouvrir, comme vous le dites vous-même, des dossiers qui fâchent, ne serait-ce que dans l'histoire de France.
C'est pour l'OAS, est-ce qu'on parlera
rappelez ce que
des opposants
l'OAS
iraniens
pour nos
tout
plus
ça.
Jeunes auditeurs rappelez ce que c'est que
l'OAS, c'est pendant tout le... Je ne sais même pas quel terme utiliser, je vais fâcher un historien, la guerre civile algérienne. C'est une méthode terroriste qui a été utilisée par ceux qui voulaient que l'Algérie reste française. Je simplifie à l'extrême, pour être clair. Mais maintenant, j'ai vécu, moi, des dossiers où on a considéré comme terroristes tout d'un coup les opposants au régime iranien. Les Moudjahidines du peuple d'Iran, et on les a arrêtés avant de les relâcher en disant non, c'est pas des terroristes, vous voyez.
Ces dossiers qui fâchent, Henri Rousseau, vous les avez maintenant entre les mains, l'OAS par exemple.
Alors oui, l'OAS, on va en parler parce qu'on aborde la guerre d'Algérie dans une rétrospective historique. Le cœur de l'exposition, enfin le cœur du projet de l'exposition permanente, c'est surtout à partir des années 70. Et on aura probablement des expositions temporaires sur des événements comme la guerre d'Algérie. Mais vous avez dit une chose tout à fait fondamentale. Nous considérons le terrorisme comme un mode opératoire avec, on peut dire, une définition extrêmement simple. L'objectif, c'est de faire peur. C'est pas de tuer. Il y a d'autres violences politiques qui ont pour...
C'est de faire régner la terreur.
C'est de faire régner la terreur pour un autre objectif. Pour avoir...
Là-dessus, vous êtes d'accord, Marc Trévisic?
Oui, sauf que les États aussi utilisent le terrorisme, pas que les groupes et individus. Et ça, c'est aussi un problème du musée.
Ah, tout à fait. Je vous donne un exemple. Il y a une section qui est consacrée au terrorisme d'État, avec deux exemples qui ont particulièrement touché la France, la Libye et l'Iran. Donc là, on évite absolument pas le problème.
Sujet absolument passionnant. Je vous remercie, messieurs. Henri Rousseau, l'historien, Marc Trévidic, le juge, merci d'avoir débattu de cette question complexe, épineuse et profonde. Le choix musical de la grande matinale ce matin, c'est une Anglaise de Manchester, elle s'appelle Freak Slug.
Slug, Miss June. Décidément ce matin. Freak Slug en concert le 21 mars à la Bellevilloise à Paris. Il est 9h47. Merci à tous d'écouter la grande matinale, cette partie magazine. Joie de retrouver Charline, Daphné Burki oui. et sa nouvelle tête qui viennent de s'installer dans le studio. Charline, Georges Clooney a été naturalisé français le 27 décembre. Il s'est installé en Provence, à Brignoles très exactement. Oui.
Ouais. Après Émilie Paris, oui. Georgine Brignoles. Sauf que lui, il est français maintenant. Non, il est même plus français que moi. Oh, alors que moi, je parle français, hein, ah ce bah qui n'est oui, pas son vrai. Cas, de son propre aveu. Il dit partout « je parlais très mal hein. ». Alors qu'il y a quelques semaines, le gouvernement avait annoncé le durcissement de l'examen pour obtenir la nationalité française. Donc soit, depuis le départ de Retailleau, il y a du relâchement, soit quand t'achètes un domaine de 180 hectares, la naturalisation vient avec. Je pense qu'elle arrive même à cheval, au galop. Je devrais y penser, moi, pour mon prochain achat immobilier. Je suis bête. Alors normalement, comme tous les étrangers qui souhaitent accéder à la nationalité française, George Clooney a dû répondre à un questionnaire culture, histoire, géo. Et donc lui, il est tombé sur la question « Pardon, monsieur Clooney, ce serait possible de faire un selfie ?» Et hop, voilà. Alors Donald Trump a réagi à la naturalisation de l'acteur en disant « Clooney est plus connu pour la politique que pour ses rares films totalement médiocres. » Ah oui, mais là, ça change tout. Parce que moi, je suis pour l'accueil des réfugiés politiques. Aux États-Unis, Clooney soutient le Parti démocrate. Donc en France, j'ai tellement hâte de le voir débarquer bras dessus avec Olivier Faure. Mais alors là où Georges me perd, c'est que s'il est démocrate, pourquoi il a choisi la France? Il s'installe dans le Var en plus, quitter Trump pour finir cerné par le RN. Cela dit, il a été super bien accueilli, des habitants sont ravis parce que d'après une enquête du Figaro, si, les Clooney sont des voisins très discrets. Au milieu des 180 hectares, si t'entends les gamins jouer à la PlayStation, c'est vraiment qu'ils cherchent. Et certains Brignolais disent l'avoir vu faire ses courses dans la zone commerciale. En 2026, Georges Clooney à l'Intermarché de Brignoles, c'est pas une blague, c'est une info, attention. Même qu'après, il passe regonfler ses pneus de la Twingo chez Noroto. Alors, il a été aussi aperçu au McDo du coin. Bon, ça, c'est sûrement le mal du pays. Donc, si je résume, il fait ses courses dans une zone commerciale à Brignoles. Le plein à la pompe dans l'Intermarché et un Big Mac au McDrive. Donc, soit il prépare un prochain rôle, soit il se tape une grosse dépression. Vous imaginez un peu, t'es dans un PMU de Brignoles et d'un coup, t'entends « Oh les gars, regardez, il y a Jojo et Jojo, ton pastis, tu le prends ristretto ?» Bon, cela dit, je me méfie parce que la dernière fois que quelqu'un m'a dit « J'ai croisé Richard Gir dans le Sud-Ouest », en fait, c'était François Bayrou. Et alors, les Clooney dînent régulièrement avec le maire de Brignoles, Didier Brémond, qui brigue un second mandat. Donc en mars prochain, Georges Clooney va probablement voter Didier Brémond. Mais il est au courant, Georges, que le RN ne présentera personne face à Didier parce que là-bas, le RN et LR travaillent bien ensemble. Ah, Clooney, il va finir par se retrouver au QG des Républicains, il va rien comprendre. Eh tiens, Georges, viens que je te présente Xavier Bertrand. C'est un petit peu le Danny DeVito des Hauts-de-France. Et tu pourrais donner 2-3 conseils d'acting à Valérie Pécresse. Dans les années 80, franchement, les mines de Brignoles, elles avaient fermé. Et les familles de mineurs sont retrouvées sur le carreau, en fait. Et puis, il y a Brad Pitt qui est arrivé dans la région. Et ensuite, George Lucas. C'est-à-dire que Lucas, Pitt, Clooney vivent dans un rayon de 40 km. Tu vas à la fête des voisins, t'as pas intérêt à débarquer avec un taboulé dans ta Mercedes de prolo. Hein. Voilà. Moi, je pense vraiment qu'on pourra dire que George Clooney s'est totalement intégré à la France le jour où on le verra apparaître dans un épisode de Plus belle la vie.
Allez, mais ça arrivera. Charles Stadenecker.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Bah oui, il est 9h51, on est en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter et ma nouvelle tête ce matin s'appelle Shirelle Nataf. Elle est comédienne et je dirais surtout qu'elle est une révélation. Demain, elle a le premier rôle du film Ma Frère. Demain, elle sera projetée dans toutes les salles de cinéma de France. Bonjour Shirelle, comment
Bonjour.
Ça va?
Bah ça va super.
Bienvenue sur France Inter. Question très importante, à partir de quand peut-on appeler quelqu'un Ma Frère?
À partir du moment où vous avez vécu plein de choses ensemble, que ce soit dans les bons moments où vous avez traversé des choses très dures, et puis même d'être honnête l'une envers l'autre.
Oui, parce que je me demandais pour Sonia, Charline, à partir de quand je vous appelle ma frère.
On peut y aller là, je
crois. On peut y aller déjà.
Avec joie.
J'adore la confession du matin. On peut y aller au mois de janvier 2026.
Elle l'a dit.
Et elle l'a pensé, elle l'a ressenti. Sonia, c'est ma frère. Ma frère, c'est l'histoire de Shai, votre personnage, et de Geneba, deux amies de 20 ans, amies depuis l'enfance, qui deviennent monitrices dans une colonie de vacances. Elles accompagnent des enfants qui, comme elles, ont grandi dans les tours du 19e arrondissement de Paris et qui, comme elles, en ont bavé à différents moments de leur enfance. Bande annonce.
Ouais, je me rame, c'est comment ?
Vraiment belle, hein, ça me donne envie de palper, les filles.
Palpe-moi, je te pète dessus.
De folle. Ah, toi aussi, tu t'en vas ? Ton frère, je le dépose chez les flics, foyer, famille d'accueil.
Elle va rentrer, ma mère, dis pas n'importe quoi. Et à toutes sortes de loisirs, ils cherchent pas des gens ?
Va y avoir le séjour en colo.
T'as bien vendu ta copine.
Oh là là, elle t'aime.
C'est pas une promenade de santé, une colo.
Il y a une fille, elle veut sortir avec toi.
Mon pote, ça va être grand.
Je leur raconte des histoires, je leur fais rire et j'ai le permis, ça c'est le principal.
Les métros, les escalators, flemme, toi, tu sais Sabrina.
La grammaire aussi un peu, flemme.
Flemme, et c'est pour ça que c'est bien, justement. C'est un film sur l'enfance, sur l'amitié, sur la mini-société, finalement, qui est une colonie de vacances, et sur ce moment très précis où on est censé basculer à l'âge adulte, à la vingtaine. Quand vous pensez à Shai, votre personnage, qu'est-ce qu'elle a de vous ?
Sa joie. Elle a la joie, puis même elle est très frontale. Tout ce qu'elle pense, elle le dit, et je pense que je suis un peu comme ça.
Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous. On va raconter pourquoi. Je voudrais saluer Fanta Kébé, qui nous écoute peut-être ce matin, qui partage l'affiche avec vous et qui partage votre vie depuis l'enfance. Parce qu'en réalité, ses deux meilleures amies dans le film sont deux meilleures amies dans la vraie vie. Et vous êtes incroyables toutes les deux de justesse. Et je veux le dire à ceux qui nous écoutent, et de bonnes énergies en vous. Et je vais vous dire un mot. Il y a un mot qui ressort de ce film et je trouve qu'on en parle souvent pas si bien que ça. C'est la sororité. Ça y est, il est enfin bien illustré. Ce film. Merci pour ça. Bah oui, parce que c'est votre amitié réelle qui le nourrit finalement, ce film. Bah, même les répliques, même l'impro qui est dans ce
film. Presque tout. Y a pas beaucoup d'impro en fait. On a fait beaucoup d'impro sur le tournage, mais il y a très peu qui a été retenu pour le film. Mais c'est vrai que Dia, Fanta et moi, on se connaît depuis qu'on est toutes petites. On s'est connues à 7-8 ans.
À l'école ?
Avant l'école, parce qu'on est du même quartier, du coup, on se voyait un peu.
19e arrondissement.
19e arrondissement. Et quand on a. Enfin, après, on a été repérés en casting sauvage. Avec une bande d'amis, nous avons été les deux seules filles à être prises. Ouais. Donc déjà, c'est incroyable.
Et vous aviez 11 ans.
11 ans. Et du coup, on a fait notre premier long métrage. Et dedans, il y avait du coup Lisa Coca qui était coach enfant. Donc on l'a rencontrée et je pense que ça a matché directement. Nous, on l'a kiffé. Elle a aimé notre personnalité, comment on était, comment on s'embrouillait aussi avec Fanta. Parce qu'on s'est toujours embrouillé, comme on dit Shai et Geneva, on s'aime autant qu'on s'embrouille.
Et vous avez toute une vie que je vais raconter avec des étapes hyper logiques, absolument incroyables. C'est pour vous dire, ce film il sort demain, mais ce film il est en vous depuis des années en réalité. Pourtant, vous n'avez pas fait d'école de théâtre classique, vous avez un CAP coiffure. Quand vous étiez adolescente, de quoi vous rêviez dans votre chambre quand vous écoutiez d'ailleurs le son de votre enfance ? Bah oui, Aya Nakamura, c'est le son de son enfance. Pour vous, ça date d'aujourd'hui, mais pour elle, c'est le son de son enfance. Ouais. Vous pensiez à quoi dans votre chambre ado ?
Moi, déjà, ce que j'ai rêvé de base, c'est d'être psychologue. J'ai toujours voulu être psychologue parce que j'aime beaucoup écouter les gens et je ressens. Enfin, je sais pas si c'est un sort de talent caché, mais je ressens l'énergie, si t'es bien ou t'es pas bien, si. Enfin, l'énergie que tu
dégages.
Que tu dégages, je vais la sentir direct.
Mais vous n'avez pas du tout fait les études de psy ?
Non, du tout.
Mais ouais. Vous ne vouliez pas spécialement être actrice, d'ailleurs ?
Du tout, c'était très loin de moi.
Incroyable, cette histoire.
Ouais.
Alors, ce casting s'est passé à 11 ans, parce que vous aviez peut-être déjà ce flow. Sur ce tournage, du coup, quel a été le plus grand défi pour vous ? Pas forcément technique, mais qu'est-ce qui a pu vous troubler ?
Sur le premier tournage ?
Sur ce tournage-là,
demain. Ah, sur ce tournage-là ? Bah, tout m'a troublé. Tout m'a troublée déjà de retourner avec l'équipe que je connais depuis que j'ai 14 ans, parce qu'on avait fait Tu préfères, de rencontrer Amel, de rencontrer Dira Zougli, enfin tous ces personnages que je connais de tête, c'est-à-dire Amel Bent, la chanteuse.
Amel Bent qui est la directrice de la colonie, et Tu préfères, c'est en effet la série de ces réalisatrices qui est sur Arte, qui est toujours visible d'ailleurs, que je vous conseille, une mini-série avec des épisodes de 6 minutes. Et donc cette équipe qui vous suit depuis des années et ce film qui sort demain. Mais il a déjà eu une vie incroyable ce film parce qu'il a été présenté il y a 8 mois au Festival de Cannes. C'est-à-dire que le film sort 8 mois mois après avoir été présenté déjà à un public, je vous rappelle, de journalistes, mais aussi de fans de cinéma qui s'inscrivent, qui vont dans la salle. Vous y étiez avec Amel Bent, avec Lisa Coca, Romane Guéret, les deux réalisatrices, avec Fanta évidemment, avec les 20 jeunes enfants du film, et on entend ce son. Et ce son, je pense que Sonia est peut-être capable aussi de le reconnaître. Ça fait des années, on dirait grand-mère feuillage, des années que je couvre le Festival de Cannes. Et on est capable d'entendre au son d'une salle, tu sais, s'il y a de la joie ou pas, ouais. S'il y a un accueil particulier. Et quand on entend ce son, vous imaginez pas, l'image est si belle. Il y a ces 20 enfants qui sont dans ce film, il y a les filles, tout le monde pleure. Il y a une énergie dingue parce qu'il a eu un accueil dithyrambique, on se le dit.
Il était incroyable l'accueil, il était incroyable. Moi j'ai fait que de chialer, je voyais même plus les gens autour de moi, j'étais là... J'étais tellement stressée, en même temps tellement contente.
Totalement inoubliable.
Mais... c'est inoubliable, c'est inoubliable, j'oublierai jamais ce jour-là.
Et donc voilà, et tous les enfants étaient là et c'était incroyable. Et ce film, il dégage une énergie très particulière que je vous conseille parce qu'il est honnête ce film. Il est sur la jeunesse d'aujourd'hui, sur la jeunesse des quartiers et ce langage qui est magnifique en réalité. Et ce jeu qui revient sans cesse à Tu préfères. Alors je rappelle, Tu préfères, c'est donc une série sur Arte où vous voyez déjà les personnages de Shai et de Geneba. Mais les règles de Tu préfères, c'est deux options possibles, complètement absurdes, parfois trash, mais on est obligé de choisir. Et ça parle des corps, de classe, de religion, de politique, de sexualité, de désir, peu importe. Vous êtes obligé de choisir. Et le générique de Tu préfères, ça a commencé comme ça. Ah, Vivaldi, les quatre saisons, l'été. Chirelle, vous vouliez me proposer un ou deux Tu préfères?
Oui, alors...
juste
alors,
comme ça, très rapide avant de se quitter.
Oui, très rapide.
Parce que c'est trop drôle de jouer à Tu préfères.
Ok. Daphné, alors Daphné.
Ok.
Tu préfères avoir ton âge ou mon âge?
Oh, je préfère quand même avoir mon âge aujourd'hui. J'étais pas à l'aise à ton âge, à 21 ans. Okay. À 22 ans aujourd'hui.
D'accord, ok, d'accord. Alors, deuxième question. Tu préfères pouvoir faire en sorte qu'il eût fait beau à la cérémonie d'ouverture des JO ou d'être obligé de manger tes crottes de nez tous les matins pendant 6 mois?
Ben, je crois que je préfère manger mes crottes de nez, parce qu'il paraît que la pluie, finalement, ça a ajouté du drama, ouais, à cette cérémonie. Bon, moi, j'avais un « tu préfères » à Sonia. Tu préfères, Sonia, à chaque fois que tu dis bonjour, avoir un klaxon qui retentit, ou à chaque fin de phrase, tu ajoutes involontairement « pouette, pouette ».
Moi, je suis pas loin du « pouette, pouette ».
Allez, c'est le « pouette, pouette ». Merci, chère matin. Le film s'appelle « Ma frère » et il sort demain. Bravo.
Merci beaucoup.
Allez, dans un instant, Ali Rebbi, juste après les infos. Ali, vous m'entendez?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Non, comment réussir sa recherche généalogique? Racontez-nous comment se sont passées vos recherches, qu'avez-vous découvert, quelles ont été les bonnes et les mauvaises surprises, quel bienfait a eu cette enquête généalogique sur vous et votre famille. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France.